Aujourd'hui, c'est special.
Special.
Interview.
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 Interview sérieuse.
Sérieuse et special.
Interview qui fait mal avec des femmes stylées.
Ouais.
1, 2, 3.
Auditeur, auditrice, bonjour. Je suis au téléphone avec Marie-Pierre Monnier à l'occasion du 8 mars. Vous êtes Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Bonjour.
Bonjour, oui, je suis Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la Drôme, du département. Et quand on rentre au Sénat, on doit faire partie obligatoirement d'une commission. Et vous avez raison, c'est de la communication, éducation. Elle est très large. Il y a aussi patrimoine, jeunesse, sport. Mais je suis également membre de la délégation droits des femmes, égalité entre les femmes et les hommes. Et en fait, c'est la commission culture dont je fais partie. Voilà. Et je suis en plus, c'est pas une obligation, mais j'ai fait le choix depuis que je suis élue en 2014 de faire partie de la délégation droits des femmes, égalité entre les femmes et les hommes. J'ai été réélue en septembre 2020 et je suis devenue vice-présidente de la délégation droits des femmes. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de votre métier à l'échelle de la Drôme et du Sénat ?
Tout à fait. Alors, c'est pas vraiment un métier. Mon métier, j'étais enseignante, j'étais prof de maths, pour tout dire. Mais c'est une fonction. Quand on exerce un mandat, c'est pas une profession. C'est, voilà. Et donc, c'est vrai que je prends plaisir et j'ai la volonté de ne pas me cloisonner au Sénat à Paris. Vous voyez, j'aime bien qu'il y ait un lien entre ce que je poursuis au Sénat et faire le lien avec le département. Ça, j'y suis très attachée. Je vais commencer peut-être par le Sénat, puisqu'on vient d'en parler. Au sein de la délégation, le travail que nous faisons est que nous allons étudier une thématique. En général, on parle en ce moment du droit des femmes avec vous et de le travail au sein de la délégation, mais j'aime beaucoup qu'il y ait un lien et qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il y ait vraiment un lien entre le travail fait à Paris, dans l'hémicycle ou en commission ou en délégation, et le travail en Drôme, et qu'il y ait aussi un ancrage sur ce que j'entends quand je suis sur le terrain. Pour moi, ça, c'est très important. Donc, au sein de la délégation, on fait le choix chaque année d'un programme et d'étudier certains thèmes. Depuis 2014, on peut faire soit des tables rondes, donc on a fait par exemple un rapport dans lequel je m'étais beaucoup investie, c'était les femmes agricultrices.
D'accord.
Et on peut aussi faire des tables rondes. Quand on fait un rapport, on a au préalable une mission qui dure à peu près 6 mois, et on va étudier à fond la thématique, faire un état des lieux, et puis faire des recommandations ou des propositions. Et on espère que ces recommandations, après, seront reprises soit par nous, soit par d'autres parlementaires, soit par le gouvernement, pour essayer de faire bouger les choses. C'est en ce sens. C'est quelque chose qui souvent est bien perçu, parce que rien que l'état des lieux, déjà, ça met sur papier, noir sur blanc, là où on en est à l'heure actuelle en France. Et donc, ça fait du bien parfois de lire quelque chose, ou ça fait mal, ça dépend. Parce que quand on voit en effet le dernier rapport qu'on vient de faire, qui était femmes et ruralité et zones blanches de l'égalité, ça montre qu'en effet, en ruralité, les choses sont plus compliquées dans tous les domaines que nous avons pu étudier pour les femmes. Et tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez dans le Divois et que vous alliez, votre radio a pris le parti de parler des femmes pendant un jour. Ben, c'est très important parce que, comme je le dis, en territoire rural, c'est zone blanche d'égalité. Il y a moins d'égalité qu'ailleurs. C'est plus compliqué pour les femmes, pour la formation, pour se soigner, par rapport aux violences faites aux femmes. Donc oui, tout l'éclairage que vous pourrez apporter, toute la communication qui va se faire autour de la situation des femmes est importante. Et dans ce rapport-là, comme dans d'autres, on parle beaucoup justement d'appuyer sur le fait que les femmes, on aille vers elles pour leur apporter toutes les informations qu'elles doivent connaître. Donc ça, c'est le travail qu'on fait au sein de la délégation. C'est un travail qui est collectif, avec des sénateurs et des sénatrices qui sont de tous bords. On y veille chaque fois. Après, pour le dernier rapport dont je vous parle, on peut donc bien sûr, comme je vous ai dit, soit prendre les recommandations et les insérer dans les textes de loi, je vous parlerai d'une en particulier que j'ai essayé d'insérer. C'est pas toujours qu'on a gain de cause, mais on essaye. On a également, pour ce rapport, été reçu par le président du Sénat, qui a tenu à connaître l'état de nos travaux, et la ministre des Droits des Femmes, Mme Moreno, et le ministre, le secrétaire d'État en charge de la ruralité, Joël Giraud, a tenu le 8 décembre à nous recevoir, ils ont tenu à nous recevoir au ministère. Et là, c'est pareil, on a bien sûr présenté le rapport, on a espéré qu'ils reprennent certaines de nos recommandations. Quand j'ai fait ce rapport, par exemple, quand je vous disais que je tenais vraiment à ce qu'il y ait un lien étroit avec la Drôme, le département où je suis issue, eh bien, j'ai de mon côté, en parallèle de toutes les auditions qu'on a pu faire au Sénat, j'ai tenu à faire des auditions en local. Par exemple, je suis allée auditionner des associations drômoises, je dirais même d'Ivoises, celle de Françoise Mar, l'association dont elle est présidente, les Chouettes, et puis une autre association d'Ivoise qui s'appelle Femmes Répit. Je suis allée auditionner, par exemple, la déléguée départementale aux droits des femmes. On a dit, vous en avez encore une, mais à l'époque où on a fait le rapport, c'était Camille de Vitastesi qui était là, et bien j'ai tenu à l'auditionner. Je suis allée auditionner le colonel de gendarmerie de la Drôme, le CIDF aussi, qui est bien sûr... qui joue un rôle important, en particulier, il a organisé un réseau d'accueil citoyen pour les femmes qui sont victimes de violences. Et puis, j'ai organisé 3 tables rondes avec des élus pour parler de la question des femmes en politique. Je dis « je », mais je suis accompagnée de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est ma collaboratrice Athénaïs Coudry, qui est dans le DIWA, voilà, et qui a aussi mobilisé beaucoup sur ce sujet. J'avais aussi auditionné la maire de Guy, qui faisait partie des tables rondes des élus. Voilà, c'était important de savoir comment ça se passait en politique. C'était assez varié, ce rapport. Hein. Ça parlait de, comme je vous ai dit, de santé, de déplacement.
Oui, alors on va y revenir sur ce rapport. Je rappelle donc que le Sénat représente les collectivités territoriales. Ma prochaine question, donc le rapport s'appelle Femmes et ruralité de la délégation aux droits des femmes du Sénat,
oui.
Si je ne me trompe pas.
Le titre, c'est Zone blanche de l'égalité.
D'accord.
Pour en finir avec, oui, les zones blanches de l'égalité. Ouais.
Alors, au niveau politique, quel lien a le Sénat avec, par exemple, les mairies, les décisions qui sont prises au sein des mairies, est-ce qu'elles ont un lien avec voilà, votre rôle, votre fonction du Sénat?
Ben, d'abord, ils font partie des grands électeurs, donc de ceux qui nous élisent. Les textes de loi qu'on vote au Sénat, on vote la loi, on contrôle le gouvernement et on vote les textes de loi. Donc, bien évidemment, les maires doivent appliquer les lois qui sont votées par le Parlement en général. Après, en tant que sénatrice, j'aime bien, en dehors vraiment de ce travail de la délégation, faire le tour des communes, et je fais un point dans chaque commune, les problématiques qu'ils peuvent avoir, et parfois certains des amendements que je propose à travers le texte de loi sont issus des réflexions que j'ai avec les élus. Et eux, donc moi je vais vers eux, mais aussi ils me sollicitent sur des sujets qu'ils peuvent avoir. Vous voyez, par exemple, sur les femmes, maintenant que je suis identifiée comme m'occupant de ce sujet, j'ai beaucoup d'élus qui me sollicitent pour savoir quelles informations ils peuvent donner, quels sont les numéros d'urgence qu'ils peuvent mettre à disposition, souvent au travers de leurs bulletins municipaux. Je repasse au local, mais je fais partie d'un collectif depuis 2015 avec des femmes qui sont élues également, alors dans le sud de la Drôme, puisque vous savez que j'habite à Vinsobres, même Piégon, tout petit village, et j'ai été élue maire de Vinsobres. Au cours d'une formation, nous avons créé un collectif avec une conseillère départementale et deux femmes qui étaient première adjointe de deux toutes petites communes, et nous avons travaillé sur la création d'un appartement d'accueil d'urgence, et nous avons accompagné la toute petite commune pour que cet appartement voit le jour, pour trouver des financements, et toujours avec ce collectif, nous avons décidé d'avoir deux temps forts dans l'année, un autour du 25 novembre en lien avec la lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est très important. Donc, en fait, moi, ma question, voilà, c'était autour de l'importance des institutions aussi dans les décisions qui sont prises dans le Diwa, dans la Drôme, concernant les droits des femmes et tout ce qui s'y rapporte. Alors, dans le rapport, il y a plusieurs sujets qui sont très, très intéressants. Des inégalités, notamment la mobilité déficiente. Il y a aussi l'offre d'emploi qui est peu mixte, donc c'est-à-dire que les emplois sont plus dirigés, l'offre d'emploi est plus dirigée vers des dominantes masculines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des thématiques sur lesquelles vous avez travaillé et pour mettre au jour ce qui révèle des inégalités entre les femmes et les hommes dans les territoires ruraux ?
Alors vous venez déjà d'en citer quelques-unes. Moi je dirais que en ruralité, pour les droits des femmes, comme pour beaucoup de sujets, la mobilité est au cœur du sujet. Hein, parce que les déplacements, on ne peut pas s'en passer, on a peu de transports publics, donc c'est compliqué. Donc c'est vraiment un sujet qui est handicapant. Donc ça veut dire qu'il faut que les collectivités, mais pas seulement les communes, mais aussi les intercos et la région, etc., se penchent là-dessus, parce que c'est important. Nous, on avait comme recommandation là-dessus, par exemple, que le code de la route soit passé à l'école. Parce que, par exemple, il y a moins de femmes qui ont le permis que de garçons. Donc, il faut arriver à... il y a 80% des déplacements en ruralité qui se font par la voiture, donc c'est important. Et donc, c'est important d'avoir son permis. Et parmi les permis, le taux de pourcentage de femmes qui l'ont est inférieur à celui des garçons. Donc si on passe par l'école, ça sera plus facile pour tout le monde pour avoir au moins son code de la route et faciliter l'obtention du permis.
Voilà, sachant que les services publics sont à distance. Donc par exemple,
oui,
les crèches, les hôpitaux, les maternités bon, qui n'existent plus à 10 par exemple. Mais bon, ça rentre en compte.
Tout à fait. C'est non seulement... pour vivre chez nous, bon, il faut se déplacer, mais c'est aussi pour aller chercher les services dont on a besoin. Comme vous avez dit, pour les femmes, la santé a été un sujet. Hein, c'est, par exemple, au niveau des gynécologues en France, il y en a 2,6 pour 100 000 personnes. Et dans 77 départements, le taux est inférieur à la moyenne nationale. C'est chez nous, pour qui c'est plus compliqué. Je me souviens d'une audition pendant le rapport où... la mission où on nous expliquait que les cancers féminins sont plus nombreux parce qu'il y a les déplacements, parce que quand on est en ruralité, on est souvent aussi pas que, mais on peut être en travailler dans le monde agricole et que quand ça arrive un moment où on peut avoir un travail, quelques heures de boulot, ben peut-être qu'on va aller travailler plutôt que d'aller faire une consultation médicale de prévention. Et donc, du coup, il y a un véritable enjeu de santé. La maternité est un sujet aussi. Il faut développer les centres périnataux. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait des hôtels de proximité pour hospitaliers proches des maternités pour que les familles puissent se retrouver. Il y a vraiment une information sur les dépistages à faire aussi. Vous voyez, cette information-là aussi qui n'arrive pas toujours. Il faut, je dis toujours, aller vers la ruralité. Alors ça peut être par l'information, ça peut être par des bus aussi qui peuvent se déplacer pour faire du dépistage. Ça existe, mais il faut le multiplier. On avait aussi une proposition qui était un petit peu forte, c'était une obligation de 3 années de service en ruralité pour les jeunes médecins et un mentorat par des médecins implantés. Il faut vraiment arriver à... C'est un vrai sujet qui touche les femmes, je le redis, en termes de maternité, mais aussi en termes de prévention.
Bien sûr.
Il faut arriver à développer les choses.
On parle de maternité, mais on peut aussi parler d'avortement, dans le sens où si on est confronté en tant que femme à un avortement, le plus proche peut-être parlons du Diwa parce qu'on est chez Air Diwa et que c'est aux auditrices, auditeurs d'ici qu'on s'adresse. Mais voilà, toutes ces questions aussi donc de maternité, d'avortement, de crèche.
Orthogénie, de centre orthogénique, oui, tout à fait.
Voilà, de crèche, etc.
Et oui. Oh, c'est la double peine, chez nous en ruralité.
C'est la double peine.
Et je le dis souvent, alors je dis à la fois, je ne veux pas être trop négative, parce que bon, moi je suis une rurale pure jus, je vous dis que j'habite à Vincennes, mais en fait j'habite à Piégon, il y a 200 habitants, et je suis en pleine campagne. Et j'aime cette vie-là, et on y est bien, et il y a une relation avec les autres en général qui est beaucoup plus... qui n'a rien à voir avec les relations anonymes qu'on peut avoir en ville. Il y a ça, c'est sûr. Mais ceci dit, on a aussi le droit de pouvoir y vivre bien. Et Dieu sait, si je vois des élus, si je vois des associations qui se mobilisent pour apporter aux gens ce dont ils ont besoin, mais l'État a aussi à faire sa part. Et les services publics, eh bien ça fait partie de la part que l'État doit apporter à toutes les personnes en France.
Voilà, donc d'où votre rôle de sénatrice et de lien entre l'État et les collectivités locales.
Voilà, moi je me mets un point d'honneur à faire remonter les problématiques qu'on peut me porter. Vous voyez, quand il y a des problèmes... sur les hôpitaux, je suis en lien, pas seulement avec l'État, avec le ministre, mais aussi avec les directeurs régionaux de santé. Pour l'école, c'est pareil, j'ai des rencontres avec les ASN régulières et après, je fais des prises de position et des alertes au Sénat en ce sens. Enfin, c'est important de ne pas rester cloisonné et d'ouvrir et de porter à connaissance. Après, je dis toujours que les choses n'évoluent pas toujours comme on le souhaite, mais c'est important de porter la parole parce que je crois aussi que le fait de la porter et de dire... ça fera bouger. Honnêtement, depuis 2014 que je suis élue, moi, je vois qu'en Drôme, les élus, quels qu'ils soient, et sur l'ensemble de la Drôme, sont saisis de sujets. Je sais que, par exemple, à votre interco du Duvois, il y a deux référents qui vont être nommés et qui vont s'occuper de cette référent égalité femmes-hommes. Je sais que j'ai été en lien avec eux, c'est Joël Boyer et Valérie Poyol. J'échange régulièrement avec eux et je sais qu'ils vont être en lien aussi avec les chouettes pour être des cadres référents au sein de la Concom du DIWA. Et bien, je trouve ça fabuleux parce que c'est comme ça aussi qu'on fera bouger. C'est-à-dire que si sur chaque commune, moi j'aurais aimé, pour tout dire, qu'au sein des conseils municipaux, l'État décide qu'il y ait un référent égalité femmes-hommes. J'ai essayé, par exemple, c'était une des recommandations, j'ai essayé de la faire passer à travers des textes de loi qui s'y prêtaient, je n'y suis pas arrivée, elle n'a pas encore été votée. Quand on a été, quand on est allé au ministère présenter notre rapport, je leur ai dit textuellement aux deux ministres que peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'une loi, peut-être que ça pouvait être juste un décret et qu'ils pouvaient s'en saisir. Parce que je pense que concrètement, et en ruralité en particulier, les élus, ils sont très proches des citoyennes et des citoyens. Donc quand il y a un problème, on va aller tout de suite voir le maire ou la première adjointe ou le premier adjoint. Enfin, il y a un lien qui est là. En ville, il y a plus de distance. Et donc, je pense que c'est bien s'il y a quelqu'un qui est référent, comme on a des référents pour la Défense, comme on a des référents pour l'Ambroisie, et que ce quelqu'un il pourrait être également formé peut-être par les associations d'élus ou par la déléguée départementale. Enfin, on pourrait trouver une formation et que ça fasse ainsi le relais, parce que je le redis, il y a beaucoup de méconnaissance des droits de la part des femmes. Vous parliez de santé, c'est pareil. Les dépistages, ça doit être connu de tout le monde. Les élus peuvent s'en saisir. C'est une de recommandations et qui porte à connaissance de tout le monde là où on peut aller faire des dépistages.
Voilà, donc d'où la double peine, parce qu'il y a un isolement plus fort, il y a de la désinformation qui est aussi plus conséquent, moins de protection et double peine. Bon, parlons de ça. Parlons des féminicides, par exemple, je rentre au cœur du sujet.
C'est terrible.
La moitié des féminicides qui se passent à l'échelle nationale, donc au milieu rural.
Tout à fait. Ça, c'était un choc.
Parce que
oui, je me rendais bien compte, en fait, que. Parce que, comme je vous dis, depuis que je suis devenue un peu référente, les gens viennent me parler, les élus, mais les femmes viennent me parler. Quand on fait des manifestations, là, c'est marche, il n'y a pas une fois où on ne vient pas nous dire. Puis même quand je suis ailleurs, que je parle de ce sujet-là, on est venu m'interpeller. Et donc, je sentais bien qu'il y avait aussi des femmes qui étaient victimes de violences en ruralité. Quand j'avais été élue la première fois, à une audition, j'avais interpellé Laurence Rossignol, qui était ministre des Droits des Femmes, et je lui avais dit, voilà, moi je suis d'un territoire rural, est-ce que ça vaut la peine de travailler sur les droits des femmes, sur les violences faites aux femmes? Elle m'avait dit, allez-y, parce que c'est encore plus compliqué en rural, c'était en 2015. C'est encore plus compliqué en rural parce qu'il y a moins d'associations identifiées, parce que c'est plus difficile.
Ce
rapport, c'est ça qui l'a mis à jour. Je l'ai dit et redit parce qu'il a eu quand même une relative... Enfin, les médias s'en sont pas mal saisis. Ça a été une claque de lire que 50% des féminicides qui ont lieu en France sont liés en ruralité, alors que seulement 35% des femmes y vivent. Donc ça... La moitié des interventions des gendarmes pour les féminicides ont lieu en rural, pour les violences, pardon, violences intraconjugales, oui, ont lieu en ruralité.
Sachant que sachant, juste pour information, que sur les 11 millions de femmes, qu'on compte 11 millions de femmes dans les territoires ruraux, ce qui représente 33% des femmes françaises.
C'est... Tout à fait.
Donc, voilà. C'est des chiffres qui ressortent du rapport que vous avez conduit. Voilà.
Et ça a été vraiment une blessure, je peux dire. Et à partir de là, vous vous dites, mais on en est là encore en France, quoi. Et ça a été vraiment une peine pour ce territoire, je le dis, auquel je suis tellement attachée. Donc on a mis un certain nombre de recommandations. Alors pour tout vous dire, quand le président de la République était venu en juin dernier à Tain-l'Hermitage, et puis nous on avait eu un temps d'échange à Chabeuil, moi je l'avais alerté sur le manque d'intervenantes sociales en gendarmerie, parce que je suis en lien toujours avec le colonel de gendarmerie de la Drôme qui est très au courant de ce sujet et qui le porte vraiment, qui est allé faire former ses gendarmes. Enfin, vraiment, il a à cœur d'essayer d'avancer sur cette problématique. Et donc, on était tous les parlementaires, là, c'était un petit comité, mais j'ai porté ce sujet-là, j'étais la seule à le porter, et je l'ai interpellé sur la nécessité. Du coup, c'est monté jusqu'au président, je l'ai dit au président, et c'est redescendu, et le ministre Darmanin a écrit en disant qu'il était d'accord, la préfète est d'accord, il y aurait besoin d'un poste mixte, intervenant social en gendarmerie et en commissariat. Tout le monde est prêt. On a même une personne en gendarmerie qui serait prête à prendre le poste nécessaire. Il manque maintenant la décision du département qui est un des financeurs et qui doit aussi donner sa réponse. Mais je pense qu'il y en a besoin parce que moi, je travaille beaucoup avec cette intervenante sociale en gendarmerie. Quand j'ai une femme qui m'explique sa problématique ou quand quelqu'un me parle d'une situation difficile, mais que les choses ne sont pas encore posées, ne sont pas encore au grand jour, mais que j'envoie, je fais prendre contact, l'intervenante sociale en gendarmerie, elle prend contact par téléphone, et c'est quelqu'un qui a toutes les compétences pour amener les personnes et les guider dans leurs problèmes.
Tout à l'heure, vous parliez de lien entre les citoyens, citoyennes et les élus. Il y a peut-être tout de même un manquement à ça, l'abstention, le désintérêt politique dans nos territoires et urbains et ruraux. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, il y a plusieurs niveaux. Au niveau élections municipales, et moi quand je vous parle d'élus, ce sont des élus municipaux, si vous regardez les élections municipales, il y a bien moins, voire pas beaucoup d'abstention, parce que je le redis bien, il y a une proximité qui est là. Après, quand vous parlez de niveau vers les élections vers lesquelles on arrive, là, il y aura une abstention. Moi, je regrette parce que je dis toujours le droit de vote pour les femmes, il est arrivé tard, par exemple, et on doit s'exprimer. Et quand on regarde les premiers tours, qu'ils soient par exemple aux législatives ou aux présidentielles, pour parler des deux élections qui arrivent, il y a un large choix. Et puis après, je dis aux gens, si la politique telle qu'elle est, elle ne vous convient pas, eh bien engagez-vous. Quand j'étais dans le monde syndical, que j'étais prof, c'est ce que je disais aux profs. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, eh bien engagez-vous et faites en sorte que ça change. Ce n'est pas facile, hein. Moi je vois dans les combats que je peux mener, ce n'est pas toujours facile, mais quand on porte un combat qu'on estime juste et dont on pense qu'il est nécessaire, eh bien on a la force de le porter. On arrive à faire bouger les choses, on n'y arrive pas, c'est un autre sujet. Mais c'est ça, être engagé pour moi. Ça ne veut pas dire avoir gagné à chaque fois. Mais vous savez, vous venez de parler de violences faites aux femmes.
Oui.
Vous connaissez le parcours qu'elles ont. Enfin, c'est un combat incroyable qu'elles mènent pour sauver leur vie parfois, sauver la vie de leurs enfants ou sauver leur famille.
Voilà, et
c'est
tout
un combat facile.
Ouais, le 8 mars, c'est une journée spéciale. Donc avec Ardivoy, vous écouterez sûrement cette interview au cœur de cette journée. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le 8 mars dans votre fonction ou dans votre vie personnelle?
J'ai envie de vous dire, j'espère que les gens ne vont pas se préoccuper de l'égalité entre les femmes et les hommes seulement le 8 mars, parce qu'elle en aura perdu.
Merci pour ça, pour votre réponse.
Et puis j'ai envie de dire aussi que l'égalité femmes-hommes, ça se construit très jeune, dès l'enfance. Et c'est à l'école et c'est aux parents, quand ils ont et garçons et filles, de leur parler de ça. Et je pense que c'est comme ça que, par les jeunes, que les choses bougeront. Voilà.
Je reprends, tout à l'heure j'ai dit un peu à la volée les thématiques du rapport. J'ai deux choses à dire. D'une part, est-ce que ce rapport, on peut le retrouver quelque part publiquement? Parce que voilà, c'est
Sur
un...
Le site
c'est un...
du Sénat.
Oui, oui. Alors, pardon, dites-moi.
Sur le site du Sénat.
Sur le site du Sénat, donc que je mettrai...
Vous devez avoir le lien ou je vous enverrai le lien si vous voulez.
Voilà, je le mettrai sur le podcast de
Super.
Cette interview parce que voilà, vous
merci,
pourrez réécouter, réécouter l'interview sur notre site www.rdiwa.fr. Donc Super. Voilà, moi j'insiste sur ce rapport parce que l'ayant lu, c'est
merci.
Un réel travail sociologique et
foudroyant
de vérité avec beaucoup de thématiques qui rapportent la réalité des femmes dans les territoires ruraux. Alors c'est vrai que dans le Diwa, on est plus ou moins, je veux dire, chanceuse d'avoir quand même une dynamique, une belle dynamique quand même, avec des associations actives, avec des initiatives citoyennes qui sont assez fortes. Dans le rapport, on parle, donc j'incite à la lecture vraiment de ce rapport, on parle de la mobilité, de la jeunesse et de l'opportunité de l'orientation, donc de l'emploi. Parce que il y a une inégalité aussi sur la mise, la mise à l'emploi, les agricultrices, qui est un vaste sujet, notamment et surtout pour les territoires ruraux, la santé, on en a parlé, les violences conjugales et évidemment la faible proportion des élus dans les intercommunaux. Voilà.
Alors vous avez de la chance parce que dans votre interco dans le Diwa. Oui, il y a une volonté d'avoir la parité, mais c'est pas une obligation. Donc, toutes les intercos, ce n'est pas le cas. Et vous verrez qu'il y a aussi ce fameux plafond de verre. C'est-à-dire que les femmes sont présentes en politique. Bon, par exemple, au Sénat, on est un tiers de femmes. Mais les femmes maires, au dernier renouvellement, en France, c'est 20%. C'est à peu près pareil, je crois, pour les présidences de région. Et pour Androm, la présidence d'interco, il n'y en a qu'une de femmes. Donc, on y est, mais après, pour accéder au poste à responsabilité, c'est encore une nouvelle étape. Et je voulais revenir quand même à ce que vous avez dit, parce que oui, vous avez la chance d'avoir les chouettes et femmes répites dans le Diwa. Et en fait, pour moi et pour tout le monde, c'est très important, parce que ce sont des associations qui prennent le relais sur ces sujets-là. Imaginez qu'elles n'y soient pas. Vous voyez ? Donc, c'est en ça où je les aide de ce que je peux, mais je pense que c'est important de les féliciter vraiment pour le travail qu'elles font, parce que c'est elles qui portent ce sujet-là sur ce territoire.
Bien, merci beaucoup Marie-Pierre Monnier
pour toutes, prie, merci à vous.
Pour
merci
toutes ces réponses. Voilà, donc je le répète, 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, entre guillemets, ce n'est une journée, mais ça devrait être toute l'année, et c'est luttes qui durent depuis des siècles déjà. On peut le dire, des siècles, hein. C'est pas nouveau les luttes féministes, mais c'est juste qu'aujourd'hui on est un peu plus visibilisé, que voilà, on est prise au sérieux de plus en plus, malgré qu'il y a encore des lacunes. Voilà, et bien c'était un plaisir de vous avoir à notre au téléphone.
Au plaisir.
Au plaisir, merci beaucoup et à bientôt sur RDIWA.
À bientôt.
Au revoir.
Et pour information, une nouvelle édition du MOOC, M-O-O-C, est apparue. Ce sont des cours en ligne et gratuits, s'intitulant « Femmes et territoires ruraux en Europe ». Donc ces cours ont pour but de faire découvrir les formes d'investissement des femmes et d'aboutir à de nombreuses connaissances telles que les actions des entreprises en Europe pour les femmes rurales, les démarches pour les projets ruraux et la place des femmes, évidemment, dans ces territoires. Ce module commence le 8 mars et je vous mets le lien pour vous inscrire. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt chez RDIWA et la journée continue.